Les précurseurs de la décroissance avec Serge Latouche et le passager clandestin.
Bon, alors, bon après-midi à toutes et à tous. Bon, pour me présenter, ben, je suis un prof qui a fait de l'économie dans la jeunesse, qui était prof d'économie officiellement à l'université, qui est devenu objecteur de croissance et par conséquent plus philosophe qu'économiste. Voilà. Donc, aujourd'hui... le thème qui est annoncé, les précurseurs de la décroissance. Je partirai du paradoxe de l'expression précurseur de la décroissance. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y ait des précurseurs de la décroissance, qu'il y ait eu une décroissance avant la décroissance? Effectivement, il y a un grand philosophe épistémologue, Georges Canguilhem, qui avait écrit il y a quelques années un très bel article sur la notion de précurseur, disant que c'est une aberration, hein, parce qu'un précurseur, ça serait quelqu'un qui serait de deux époques en même temps. Il serait forcément du passé, d'une époque passée, puisque sans ça, il ne serait pas prêt. Hein, mais en même temps, puisqu'il a développé une théorie qui devient d'actualité, il se trouve aussi dans une autre époque. Alors, il prend effectivement l'exemple, il dit, mais dans l'histoire des sciences, par exemple, on présente souvent Aristarque de Samos comme un précurseur de Galilée et de Copernic, parce qu'Aristarque de Samos, qui était un savant d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait émis l'hypothèse que, contrairement à la théorie de Ptolémée, qui disait que c'était... la Terre était au centre du monde et que le Soleil tournait autour de la Terre. Il dit, ben non, c'est le Soleil qui est au centre du monde et la Terre tourne autour. Alors Canguilhem dit, oui, mais c'était une hypothèse, mais ça n'a rien à voir avec ce que Galilée et Copernic introduisent plusieurs siècles après, dans un contexte totalement différent. D'abord parce que l'orbite de la Terre n'est pas un cercle, mais une ellipse. Et puis que ça s'inscrit dans un contexte où on avait découvert les satellites de Jupiter, etc., etc. Alors c'est typiquement, effectivement, c'est intéressant ce que dit Canguilhem, c'est que et c'est un structuraliste, donc une époque a sa cohérence et quelqu'un qui dit quelque chose avant ne se trouve pas dans cette époque-là et par conséquent, ça ne s'introduit pas dans le... Il y a un peu une forme d'anachronisme. Alors, c'est vrai que quand on a lancé le mouvement de la décroissance en 2002, et j'ai là un bon témoin, Bruno Clémentin, qui se trouve quelque part dans la salle, qui a participé à ce lancement, on dirait, on avait l'impression que nous n'avions pas de devancier, qu'on était, c'était quelque chose de nouveau. Et bien sûr... on évoquait le fait que le mot décroissance avait été utilisé pour intituler un livre qui reprenait des articles de Nicolas Georgescu-Roegen, grand économiste et scientifique. Mais il n'y avait pas une théorie de la décroissance chez Nicolas Georgescu-Roegen, puisque le mot décroissance n'existe pas en anglais et qu'il écrivait en anglais. Donc c'est son traducteur. Jacques Greenwald qui avait eu l'idée de donner ce titre pour le livre qui reprenait des articles. Moi, je dis toujours que j'ai eu deux maîtres qui m'ont beaucoup inspiré, qui sont Ivan Illich et Cornelius Castoriadis, mais ni l'un ni l'autre n'ont utilisé le terme de décroissance. Mais c'est évident que nous n'avons pas inventé la critique de la croissance. Tout le monde sait qu'il y a eu, si on peut remonter au moins à 1972, avec le premier rapport au Club de Rome, Halte à la croissance, de Denise et Donilla Meadows, ce sont les principaux artisans du MIT qui ont fait ce travail pour le compte du Club de la croissance, qui était dirigé par l'Italien Aurelio Peccei. Et c'est pour ne pas remonter encore, on peut dire que déjà en 1962, avec Rachel Carson et son fameux livre qui a été un best-seller, The Silent Spring, Le printemps silencieux, on avait déjà une critique de la société des pollutions de la société industrielle. Alors, mais ce qu'il y a, que je pense, qui fait que nous n'avons pas, quand on a lancé le mouvement de la décroissance, on n'a pas vraiment pensé qu'il y avait des précurseurs, c'est parce que, qui nous faisait penser qu'on était originaux, c'était bien sûr, il y avait des gens qui avaient critiqué la croissance du point de vue écologique. Donc, il y avait une critique écologique de la croissance, dont le rapport du Club de Rome est la meilleure illustration. Mais il y en a bien d'autres. Il y a eu toute une série de... comme Jacques Ellul, par exemple, à qui on attribue le mantra de l'écologie, penser globalement, agir localement, hein, ou Bernard Charbonneau, qui effectivement, dans un de ses textes, utilise le mot décroissance, parle de décroissance, mais en un sens littéral du terme. C'était pas un projet, etc. Il y avait, par ailleurs, dans les mêmes années, c'est-à-dire, disons, dans les années 60-70, il y avait une critique, alors anthropologique, de la société de consommation, dont la plus belle illustration est le livre éponyme de Jean Baudrillard, La société de consommation. On a une critique très radicale, hein, de la société de consommation, mais on chercherait en vain dans l'œuvre de Jean Baudrillard une critique écologique. La critique est socio-anthropologique, hein, qui nous dit que cette société nous conduit à avoir une vie de con. Il faut sortir de la société de consommation parce que c'est une société qui détruit l'homme, détruit l'humanité de l'homme, etc. Il y avait des tentatives un peu. Illich est un peu des deux côtés. En plus, celui qui ressemble le plus, effectivement, qui tente le plus de faire le joint entre les deux, c'est certainement André Gorz. André Gorz, qui d'ailleurs aussi utilise le terme décroissance assez tôt, mais aussi dans un contexte où il s'agit simplement d'arrêter la croissance. Il n'a pas intitulé son projet la décroissance. Au fond, le message de la tradition de la critique écologique, c'était tirer un signal d'alarme. Donc, depuis Rachel Carson, le Club de Rome, même Nicolas Georgescu-Ruggen, n'est-ce pas, ça veut dire il faut arrêter la croissance ou sortir de la croissance ou entrer, réduire même la croissance, aller dans le sens inverse, changer de direction, sinon on va dans le mur. Donc la société dominée par une économie de croissance n'est pas soutenable. Le message de la critique, disons, anthropologique, hein, qui est le message donc de Jean Baudrillard, mais qui est aussi celui d'Illich ou de Cornelius Castoriadis, c'est que cette société, qu'il faut bien appeler par son nom, capitaliste, hein, cette société dominée par une économie capitaliste, une économie productiviste, une économie consumériste, cette société n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable parce qu'elle nous conduit à l'absurde, hein, à être toujours insatisfait de ce que nous avons pour désirer ce que nous n'avons pas et d'être toujours de travailler métro, boulot, dodo. C'est d'ailleurs pour ça, si la jeunesse s'est rebellée en 68, ça n'est pas comme les gilets jaunes parce que une taxe sur le pétrole réduisait leur pouvoir d'achat. On trouvait qu'il y avait en 68 suffisamment de pouvoir d'achat, il n'y avait pas de chômage, c'était métro, boulot, dodo. C'est-à-dire qu'on bosse, on gagne, on dépense, on consomme, mais on vit comme des cons. C'était le message aussi de ce qui a inspiré Jean Baudrillard de la critique situationniste, hein, avec Guy Debord, La société du spectacle. Et chez Debord, vous auriez du mal à trouver une analyse aussi écologique. C'est pas, l'écologie n'entre pas dans le logiciel de Debord. Nous avons donc lancé ce mouvement de la décroissance sans vraiment songer aux précurseurs. Hein, et effectivement, si on réfléchit, il y avait au moins deux lignées. Dans les deux lignées, on pouvait trouver des antécédents, des pionniers, sinon... Bon. Et c'est un peu par hasard, il n'y a pas trop de hasard, mais quelques années, dans le 2005, je pense, donc 2-3 ans après le lancement du projet et de la sortie des premiers numéros du journal La Décroissance, hein, qu'une petite maison d'édition, Le Passager Clandestin, m'a demandé de préfacer, d'introduire une conférence inédite en français d'un socialiste qu'on appelle socialiste utopique, romantique, bon, pré-marxiste, William Morris. Alors, je connais, socialiste anglais, je connaissais l'œuvre, c'est pour ça qu'on m'avait, on s'était adressé à moi, je connaissais un peu l'œuvre de William Morris, en particulier son livre principal, qui est News of Nowhere, Nouvelles de nulle part, qui décrit une utopie, hein, Londres au XXIe siècle, complètement dépolluée, transformée en espèce de paradis éco-biologique, agro-permaculture, tout ce que vous voudrez. Et donc, j'avais fait cette préface d'une conférence qui s'intitulait « Comment nous pourrions vivre ?» en intitulant comme ça spontanément ma préface « William Morris, précurseur de la décroissance ». Et donc, je montrais que le message de la décroissance, critique sociale, hein, puisque c'était un socialiste, mais il y avait aussi critique écologique, ce qu'on ne trouve pas souvent chez les socialistes, et donc que William Morris était vraiment, de ce point de vue-là, un précurseur de la décroissance, en ce qu'il avait les deux dimensions, la critique sociologique, anthropologique et la critique écologique. Et comme le petit bouquin qui est sorti était d'un petit format, la préface, l'introduction, à peu près le même volume que le texte à l'appui, j'ai dit au directeur du Passager Clandestin, mais bon, et puis il se présentait de façon, je trouvais sympathique, je disais, mais on pourrait imaginer de faire une collection comme ça et toute une série de bouquins. J'avais déjà eu l'occasion, dans des colloques, des conférences, de faire une présentation sur Castoriadis, précurseur de la décroissance, Ivan Illich, précurseur de la décroissance. J'avais par devers moi, je me dis, bon, j'ai une petite réserve. Je pensais aussi à Ellul, à Charbonneau, à Panicard. Donc je me dis, bon, il y a 5-6. Mais je ne voyais pas, très très large. Je voyais une petite collection de 5-6 bouquins sur les précurseurs. Et puis ils ont dit, d'accord, ils ont dit, ça nous intéresse. On a commencé. Aujourd'hui, on en a, avec le dernier qui vient de sortir, qui est sur Ivan Illich, précisément par Thierry Paco, on a maintenant plus d'une vingtaine de ceux qui veulent avoir. J'ai là tout un petit stock de fiches sur les différents bouquins de la collection, une vingtaine de titres. J'avais eu l'idée, je me dis, on pourrait faire cette collection en français. Comme depuis quelques années, je fais une carrière italienne, et que les livres sur la décroissance sont tous traduits en italien, qu'il y a un mouvement assez vivant en Italie sur de décroissance, je me suis dit, on pourrait faire aussi la collection en italien, et je pensais aussi en espagnol, parce que les livres sur la décroissance aussi étaient traduits en espagnol, etc. Alors, la collection italienne, ça a marché. On a environ 14 volumes là déjà sortis. L'Espagne, ça n'a pas du tout marché parce que les éditeurs ou bien sont à Madrid ou sont à Barcelone et ça ne marche pas entre les deux. Et à Barcelone, ils avaient des problèmes financiers, etc. Donc, c'était la crise. Ils ont d'autres problèmes. Ils veulent leur indépendance et ils pensent à autre chose qu'à la décroissance. Donc, ça ne s'est pas fait. La coordination entre la France et l'Italie, ça n'a pas marché non plus. Donc, il y a des livres italiens qui n'existent pas en français, des livres français qui n'existent pas en italien. Bon, voilà. Mais enfin, il y a les deux collections. Alors, on peut se demander, donc, pourquoi faire une collection des précurseurs de la décroissance et qui sont ces précurseurs? Alors, pourquoi Je dirais que il y a 5 raisons qui justifient de s'intéresser aux précurseurs de la décroissance. D'abord, la profondeur. Je dirais que on a souvent, derrière au départ, la décroissance, c'est un slogan. Ça n'est pas par hasard que ça a été le premier colloque sur la décroissance organisé à Lyon en septembre 2002, si je ne m'abuse, était fait par une association casseurs de pub, n'est-ce pas ? C'était des gens qui avaient une expérience de la publicité, qui avaient rejeté la publicité et qui voulaient utiliser aussi, faire de la contre-publicité. Et par conséquent, le mot décroissance était un slogan provocateur, parce qu'on se dit, quand on voit le mot, on entend le mot la première fois, étant donné qu'on baigne dans la religion de la croissance, on dit, mais ils sont complètement dingues, ces types, ils sont complètement fous. Et on s'intéresse, du coup, on est provoqué. C'est comme disait Paul Ariès, un des premiers théoriciens de la décroissance. C'est un mot obus, un mot qui fait que bon. Et donc, on ne pense pas forcément, on se dit, c'est une espèce de mode superficielle. On pense pas qu'il y a une profondeur, qu'il y a un projet derrière le slogan, qu'il y a tout un projet de société alternative et d'une société alternative qui a été pensée depuis longtemps, qui trouve ses racines, entre autres, dans le mouvement socialiste, même avant Marx, n'est-ce pas, et dans le mouvement écologiste, etc. Donc c'était une façon de donner du sérieux et de prendre, de faire comprendre que c'était pas une lubie comme ça. La deuxième raison qui est lié à la première, c'est que ça permet effectivement de nous donner une légitimité, qu'on n'est pas des marginaux, des farfelus, ou comme on nous dit quelquefois, des Khmer verts, ça c'est l'insulte suprême, des Khmer verts. Non, c'est une forme, le projet de la décroissance, c'est un projet qu'on peut appeler écosocialiste, c'est-à-dire qui reprend l'aspiration égalitaire de justice sociale du socialisme et de l'auto-organisation, mais seulement à la différence du socialisme marxiste qui fait l'impasse sur l'écologie et sur l'existence du problème, sur le fait que le système capitaliste n'est pas seulement un système c'est un système d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est sûr, mais ça n'est pas seulement un système d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est aussi un extraordinaire système de prédation de la nature. C'est un système de prédation de la nature. Et cet aspect prédation qui fait qu'avec ce qu'on appelle maintenant, justement, celui qui avait donné ce nom, décroissance, au livre de Nicolas Jurskjørgen, Jacques Greenwald appelle le capitalisme thermo-industriel, c'est-à-dire qui a fait le choix du feu qui est basé sur les machines à feu, donc machines à vapeur, puis ensuite moteur à explosion, qui a donné une impulsion fantastique au capitalisme, se base effectivement sur l'utilisation d'une ressource non renouvelable, donc d'une prédation d'une ressource de la nature, qui est le charbon, les énergies fossiles, le charbon et le pétrole. Donc ça nous donne une grande légitimité, et donc comme par rapport à évidemment au moment où on a lancé ce mouvement, c'était donc peu après le tournant de 1989, donc la chute du mur de Berlin, la fin du deuxième monde, donc la fin du troisième monde, etc. On est dans le moment où c'est le triomphe arrogant du tout marché, avec ce slogan de Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, on s'inscrit en faux en disant « si, il y a une alternative écosocialiste, n'est-ce pas ?» Et cette alternative, oui, c'est une utopie. Nous avons besoin d'utopie, nous avons besoin de rêver vu la misère du présent, mais c'est une utopie concrète, une utopie qui est qui a toutes les possibilités de se réaliser si nous le voulons, un autre monde ou d'autres mondes sont possibles si nous le voulons. En tout cas, c'est infiniment moins utopique que l'utopie libérale ou ultralibérale qui nous amène à la disparition programmée de l'humanité. Donc là, au moins, nous avons une possibilité de construire un futur soutenable. La troisième raison qui justifie l'existence d'une collection de précurseurs de la décroissance, je dirais que c'est une raison pédagogique. De même que au moment du temps où le marxisme était, comme disait Jean-Paul Sartre, l'horizon indépensable de notre temps, et avec son bras séculier qui était le Parti communiste français, qui a eu des beaux jours après la libération, c'était le premier parti en France, on oublie ça, mais qui était presque à la porte du pouvoir. Eh bien, il y avait un souci dans le Parti communiste de faire de la pédagogie aussi, d'éduquer le peuple. Et ils avaient une collection, des collections qui s'appelaient les classiques du peuple. Et dans cette collection, qui était une forme de qui s'efforçait de vulgariser un peu les grands auteurs, Diderot, les socialistes, Marx, etc. Donc c'était très bien fait. D'ailleurs, il y avait une petite collection pour Eh bien, c'était un peu ça l'idée au fond. Les classiques de la décroissance, donc surtout pour les jeunes générations, mais pas seulement, mais pour les jeunes générations qui n'ont pas toujours eu une formation, même à l'école, très très poussée sur ces gens qui sont les précurseurs de la décroissance, depuis les socialistes utopiques et même en remontant plus haut, les philosophes, certains philosophes plus anciens. Donc l'idée de présenter de façon, dans des petits livres, de façon pédagogique, vous voyez, c'est des petits livres, parce que voilà, le dernier est né en Italie, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il n'existe pas en France, mais c'est sur un auteur français, Georges Bataille, qui était extrêmement important sur la critique justement de la modernité, etc., donc, et de l'économie. Bataille, vous voyez, c'est pas très grand, important, une présentation qui fait la moitié de l'ouvrage, et puis des textes à l'appui pour faire connaître l'auteur. Donc, des petits bouquins comme ça. Alors, je dirais que je me suis aperçu que la décroissance, ça plaît beaucoup généralement aux jeunes dans les conférences. D'ailleurs, là, je regarde avec mes lunettes, parce que sans lunettes, je ne vous vois pas, mais oui, en moyenne, vous êtes la moyenne d'âge ici, c'est en dessous de 50 ans. Donc, voilà. Bon, quelquefois, il y a des vieux, parce qu'il y a les vieux combattants, les vieux 68-ards. Il y en a quelques-uns, là, bon. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc, il y a les plus de 50 ans, et puis les moins de 40, même les moins de 30. Et donc, il y a beaucoup de jeunes. Mais les jeunes, ne sont pas passés par la même formation que leurs aînés. Et j'étais, en faisant des conférences comme ça, à droite, à gauche, j'ai été invité, il y a quelque temps, à Nantes, par un groupe de jeunes qui font des Ripper Cafés. Vous savez, c'est les cafés où on se réunit pour contraster l'obsolescence proclamée, recycler les trucs. Alors, ils avaient une superbe imprimante 3D. Alors, ils m'ont montré comment ça fonctionnait. Ils m'avaient dit, si vous venez avant, un peu avant l'heure, vous verrez comment on fonctionne. Là, les gens apportent leur grille-pain cassée, on essaye de les démonter, de les réparer, tout ça. S'il manque des pièces, on essaye de faire la pièce avec l'imprimante 3D. Alors, je suis venu, j'étais très intéressé par tout ça, mais j'avais encore du temps avant la conférence. Alors, ils m'ont dit, si vous voulez, vous pouvez vous installer dans notre bibliothèque. Alors là, j'ai eu quand même une surprise. Bonjour, la bibliothèque. Une petite armoire dans laquelle il y avait 4 bouquins qui se battaient en duel. On m'a dit, on a tous vos livres. Alors, en fait, de tous mes livres, il y avait un des livres qui, manifestement, n'avait pas été ouvert. Et le reste, c'était Mac 5 pour les cons, comment se servir du logiciel libre, le numérique à la portée de tout le monde. Enfin, bref, il y avait... Voilà. Alors, ensuite, dans la suite du truc, je me suis aperçu que ces jeunes très sympathiques, après on est allé manger, après la conférence, on est allé manger ensemble, très, très sympa, mais la plupart de ces braves jeunes gens ne savaient ni lire, ni écrire, ni parler. Bon. Alors, donc, Je pense que, effectivement, les vieux dont je fais partie, donc les anciens, on doit transmettre quelque chose qui n'a pas été transmis par le système scolaire. Et donc, il y a une pédagogie à faire. Essayer de faire des petits livres faciles pour montrer que, ben, avant l'imprimante 3D, il y avait tout de même une pensée et que ça s'inscrit, on peut s'inscrire dans un autre monde voilà, possible. La quatrième raison, je dirais que j'ai évoqué donc différents courants de pensée à l'origine de la décroissance. Je vais en parler dans la deuxième partie, qui sont les précurseurs. Je vais en parler encore beaucoup d'autres, élargir encore l'éventail. On a des penseurs à la fois très divers et surtout d'horizons très divers. Et par conséquent, c'est une pensée pluraliste, une pensée qui doit nécessairement être tolérante parce qu'elle n'est pas dogmatique, elle n'est pas figée dans un dogme, comme avait pu l'être quand le socialisme a été dominé par le marxisme, que le marxisme a éliminé un peu toutes les autres courants de pensée, surtout quand il est devenu marxisme-léninisme, et qu'il a été repris en plus par Staline. Alors là, on avait la doctrine encadrée, le dogme, et d'ailleurs, ceux qui ne pensaient pas comme ça, on les mettait dans des camps de travail, dans le goulag, etc. Donc on avait une pensée dogmatique et qui est même devenue terroriste. Donc en vrai, c'est pas du tout, on veut pas du tout, justement, c'est ça qui nous aurait fait, qui nous ferait accuser d'être des Khmers verts. Hein. Donc il est important aussi de développer une école de tolérance et l'idée que la pensée de la décroissance ouvre non pas sur... c'est pas une pensée qui... on ne doit pas penser une société de décroissance. Je dis toujours, ce n'est pas une alternative, c'est une matrice d'alternative. Bien évidemment, on ne fera pas une société alternative. D'abord, on n'utilisera pas le mot décroissance. C'est évidemment qu'on ne va pas utiliser le mot décroissance pour la construction d'une société non productiviste et non consumériste en Afrique, hein, où les gens vous diraient, mais nous, la croissance, on aimerait bien en avoir, on n'en a jamais eu. Hein, bon. Donc, bien évidemment... c'est pas une raison pour construire une société de cons et une société qui va à la catastrophe, mais il faut pas l'appeler décroissance, effectivement, et ça rentre pas dans le cadre. D'abord, le mot décroissance n'est pas traduisible, de même que le mot croissance, d'ailleurs, n'est pas traduisible dans les langues africaines, parce que l'imaginaire qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'imaginaire du progrès, n'existe pas dans la tradition africaine. Il suffit de penser, par exemple, que pour les Africains, je dirais pour les Africains, il faudrait au moins une partie en tout cas, la représentation du temps n'est pas la même. Et ils se représentent le futur, ils disent le futur, on ne le connaît pas. Donc il est derrière nous, on ne le voit pas, il est derrière, il se cache derrière. Le passé, il a déjà eu lieu, donc on le connaît, il est devant nous, il s'étale devant nous. Et par conséquent, l'objectif, c'est de réaliser le monde un peu idéal des ancêtres qui ont fondé la société, d'être orienté vers ces valeurs et les ancêtres, et non pas d'aller vers l'arrière, vers le futur. Et c'est pas con, hein. C'est pas con, mais évidemment, on voit bien que qu'est-ce que ça veut dire progresser dans ce champ, dans ce champ-là. Le syntagme du progrès ne fait pas sens dans un imaginaire qui est fondé comme ça, à travers des langues qui parlent ça. Et donc, par conséquent, bien évidemment, quand les missionnaires de l'économie productiviste sont allés en Afrique pour développer l'Afrique, ils ont fait des discours qui n'avaient aucun sens pour les Africains, bien évidemment. Et bon, il faut exploiter les forêts, mais... Les forêts, excusez-moi, mais ce sont des bois sacrés, c'est là que se trouvent les esprits, etc. On ne va pas abattre les arbres pour vendre du bois, pour faire des fauteuils et des machins pour les Blancs. Donc, tout était à l'avenant comme ça. Pour certains, on dit, bah, vous avez des crocodiles, vous devriez les exploiter, on peut faire des ceintures, il y a un marché pour les ceintures en peau de croco. Oui, mais le crocodile, c'est l'ancêtre. On ne va pas tuer l'ancêtre pour faire prendre sa peau, avoir sa peau et faire des... Bon, et voilà. Enfin, bref, donc, il n'y a pas... C'est vrai que... Il y a un impérialisme occidental. L'impérialisme occidental, c'est pas seulement un système de prédation, c'est un système de colonisation de l'imaginaire. Donc c'est d'imposer une vision à travers des syntagmes, progrès, besoins, PNB, économie, etc. Et par conséquent, c'est une vision qui est liée à l'universalisme occidental et nous préconisons à travers la décroissance ce que j'ai appelé le pluriversalisme, donc une vision de démocratie des cultures, et par conséquent, chaque culture doit trouver dans ses racines, dans son imaginaire, les forces et les valeurs pour construire une alternative à un système qui nous amène à l'effondrement et à la disparition de l'humanité. Bon. Donc c'est... dans ce sens-là que la décroissance est une école de tolérance. Enfin, cinquième raison, ça permet, et c'est la conséquence de la précédente, de renverser nos manières de penser, expression qui est le titre d'un des petits livres que j'ai écrit dans la collection des précurseurs de la décroissance. Il y a un autre livre qui n'est pas dans la collection des précurseurs qui a été publié dans une... chez une maison d'édition qui n'existe plus, qui était à Lyon à l'origine, Parangon, hein, et qui était « Décoloniser l'imaginaire ». Mais le livre est toujours disponible chez les libraires, je vous rassure. Bon, et donc, renverser nos manières de penser, c'est une façon de décoloniser son imaginaire, hein, et de revisiter l'histoire. Hein. Nous connaissons l'histoire à travers des manuels qui sont une forme de manipulation volontaire ou involontaire. Involontaire, souvent, parce que nous avons des très bons historiens très honnêtes. Je pense à Fernand Braudel, par exemple. Mais Fernand Braudel avait une vision, disons, qui s'inscrit dans l'universalisme occidental, la vision du progrès. Hein, et il conçoit la première révolution industrielle, par exemple. Il conçoit ça comme... la mise en place de nouvelles techniques hein, qui permet un accroissement continu de la progression, de l'amélioration des conditions de vie, etc. Évidemment, on est amené à revoir tout ça. Ce n'est pas l'ingéniosité technique en soi qui a permis cette révolution industrielle. On découvre maintenant que les anciens, par exemple, les Grecs du 3e siècle avant Jésus-Christ, avaient des connaissances techniques extraordinaires. Si vous allez à Athènes et que vous allez dans le musée archéologique d'Athènes, vous avez une salle maintenant. Fort heureusement, ils ont fait toute une salle consacrée à ce qu'on appelle la machine d'Anticythère. Alors, si vous ne connaissez pas la machine d'Anticythère, vous allez sur Internet, vous tapez « machine d'Anticythère », vous verrez. On a appelé ça un ordinateur du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, on a trouvé dans les années 30, au large de l'île de Cythère, un petit rocher qui s'appelle Anticythère, sur lequel un navire s'était effondré, avait heurté au 3e siècle après Jésus-Christ, qui venait probablement d'Alexandrie et qui allait vers Rome, et qui transportait, entre autres, des statues de marbre, des statues de bronze, etc. Tout ça, ça se retrouve dans le musée d'Athènes. Il y en a pas mal, il y a plusieurs salles. Et puis, on a trouvé dans la vase un magma en trois morceaux. On l'a baptisé « machine d'Anticythère ». Mais très vite, il y a des... Parce qu'on voyait des rouages, on voyait des roues dentelées, on voyait des trucs. Alors, très vite, il y a des... Ça a fasciné un certain nombre de gens... Deux savants, au moins, après un amiral qui avait déjà commencé à déblayer un peu le terrain, deux savants, un Britannique et un Américain, ont consacré pratiquement toute leur vie sur ça. On a passé ça, on les a passés au rayon X, on les a passés ensuite, on les a scannés, etc. Le Britannique a passé une partie de sa vie avec la lime à refaire, parce que quand ils ont commencé à dire que c'était une machine très sophistiquée, on a dit « mais non ». Les Grecs n'étaient pas capables de faire ça. Ils n'avaient ni les connaissances ni les techniques pour faire un ordinateur. Alors, il a commencé à dire, ben voilà, les techniques, ils avaient ça, les trucs, avec la lime et le machin. Il a refait la machine. on avait trouvé dans tout le temps, regardant bien avec les rayons X et tout ça, on avait trouvé des débris du boîtier en bois et des débris d'un papyrus qui était collé, qui était le mode d'emploi. Enfin, avec tout ça, en carburant, on avait vu que c'était une machine qui était en plusieurs dimensions, qui avait des cadrans devant, des cadrans derrière, et qui reproduisait tout le système solaire, qui permettait de prévoir les équinoxes, les éclipses, etc. Donc, une machine très sophistiquée. Mais cette machine, il n'y avait pas de moteur, il fallait la tourner à manivelle. Et en fait, jusqu'à l'invention de la machine à vapeur et donc l'utilisation des énergies fossiles, les énergies dont disposait l'humanité depuis le paléolithique, c'était essentiellement l'huile de coude, l'huile du coude aussi des ânes et des chevaux, et puis les moulins à vent, les moulins à eau, puis c'était les moulins à eau pouvaient rendre des grands services parce ça pouvait faire des marteaux pilons pour la sidérurgie, ça pouvait faire des broyeurs pour faire de la pâte à papier, etc. Mais c'était quand même très très limité. Grosso modo, les progrès de l'humanité entre la première révolution néolithique, la domestication des animaux et des plantes, et la première révolution industrielle, c'est extrêmement limité. Ce qui a permis la croissance, ce qu'on appelle la croissance, c'est en fait l'utilisation des énergies fossiles. Donc, ce n'est pas tellement l'ingéniosité humaine, c'est la prédation de la nature à travers le charbon et le pétrole. Il suffit de penser que quand vous mettez 30 litres de pétrole dans le réservoir de votre voiture, c'est comme si vous mettiez un esclave et vous le faisiez bosser jour et nuit pendant 3 ans. 3 ans, hein ? Certains disent même 5 ans. Alors, vous imaginez bien que ça donne évidemment une puissance, comme a dit un expert pétrolier américain, Richard Heinberg, dans un très beau livre qui s'appelle « The Party is Over », « La fête est finie ». Il a dit « La croissance est sortie des puits de pétrole et s'arrêtera avec eux ». Donc, elle ne va pas tarder à s'arrêter, effectivement. D'ailleurs, en fait, c'est le paradoxe. Nous vivons maintenant dans une société de croissance sans croissance. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que au moins une société de croissance avec croissance, ça donne du boulot. Les gens, pas dans les 30 glorieuses, ils avaient du boulot. On détruisait la nature, on exploitait le tiers-monde, mais au moins, il y avait du boulot. Il y avait des financements pour l'État social, la sécurité sociale, les retraites, etc. Une société de croissance sans croissance, il y a du chômage, et ça, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de ressources budgétaires, on ne sait pas comment... où on va trouver les 100 milliards promis par Macron pour satisfaire les gilets jaunes. D'autant que les riches ne veulent pas payer, évidemment. Et donc, c'est la catastrophe. C'est l'austérité. Et donc, c'est l'enfer. Mais on est toujours dans une société de croissance. Il suffit d'écouter les discours des gouvernants. Croissance, croissance, croissance. Donc, c'est une invocation mythique. Seulement, la croissance, il n'y en a pas. Et il n'y en aura probablement plus jamais, pas vraiment, des fausses croissances, des croissances spéculatives, des trucs artificiels, qui consistent surtout à transformer le vernaculaire, c'est-à-dire le gratuit, en économie, à économiciser ce qui n'était pas, c'est ce que fait Airbnb, ce que fait, etc. Bon, l'économie du don, de la réciprocité, en faire de l'économie marchande. Mais la vraie croissance, celle qui donnait du bien-être, donnait du travail, c'est terminé. Bon, donc, alors, avec... c'est la dernière raison de... renverser nos manières de penser, c'est les précurseurs, entre autres, l'étude, nous permet d'avoir une vision différente de l'histoire, une vision différente de l'histoire de la pensée, une vision différente aussi de l'histoire tout court, de l'évolution de l'histoire de l'Occident, de ses rapports avec la nature, de ses rapports avec le reste du monde. J'en arrive à la deuxième partie. Qui sont les précurseurs ? Alors, on pense, mais ce que j'ai dit déjà, et j'ai évoqué un certain nombre de personnes, n'est-ce pas ? Il y a une première catégorie incontestable, les précurseurs de la décroissance. Ce sont des gens qui, ayant connu déjà une société dominée par une économie de croissance, c'est-à-dire une économie capitaliste, fondée sur l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, c'est le nom marxiste de la croissance. Et donc, qui ont connu ça et qui ont vu les problèmes que ça posait, l'ont dénoncé. Alors, on pense, j'évoquais Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, donc on pense à tous ces gens qui, dans les années 60-70, ont les fondateurs de l'écologie politique, des gens comme justement André Gorz, Ivan Illich, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Nicolas Georgescu-Reguen. J'ai évoqué aussi, à travers la critique anthropologique, socio-anthropologique, dans les situationnistes, Jean Baudrillard, on peut dire pour les Italiens, Alex Langer, qui a été le fondateur des Verts en Italie, ou pour les États-Unis, Murray Bookchin, l'anarcho-écologiste américain. Donc, sous ces gens sont nos contemporains, plus ou moins, qui ont fait une critique ou de la société de consommation ou de la société productiviste ou consumériste, etc. Une deuxième catégorie, et effectivement, la plupart de ces auteurs, vous les retrouverez dans la collection. Mais j'ai évoqué à l'origine de la collection le petit livre sur William Morris. Et donc, effectivement, William Morris appartient à cette catégorie d'auteurs qu'Engels a classé comme socialiste, utopique, romantique ou aristocratique, donc qui comprend des gens comme Jean-Charles Léonard Sismondi de Sismondi, voilà un aristocrate, pas critique du système de l'industrialisation, mais beaucoup d'autres comme Fourier, sur lequel nous avons fait un petit dessus. On peut penser à Cabet, Robert Owen, etc. Et aussi, liés à ce mouvement, les anarchistes comme Bakounine, qui était bon, les adversaires de Marx, Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, Kropotkine, on peut parler Élisée Reclus, tous ces gens. Et dans le mouvement anarchiste, c'est assez intéressant parce que il y a, au début du XXe siècle, il y avait donc ce qu'on appelait les anarchistes, l'anarchisme scientifique. C'était essentiellement Kropotkin et Élisée Reclus, deux grands intellectuels. Mais il y avait la tradition, bon, liée à tout le mouvement anarchiste qui a été à l'origine des lois répressives de l'époque, qu'on appelait des lois scélérates, n'est-ce pas ? Parce qu'il y avait les fameux attentats anarchistes qui a amené Ravachol sur l'échafaud. Et donc l'anarchisme populaire, beaucoup moins contrôlable. Et il y avait dans ces anarchistes populaires tout un courant qu'on a appelé les naturiens, qui a été complètement oublié. Ce n'étaient pas des grands intellectuels. C'était des gens un peu naïfs, qui pensaient que l'industrialisation, tout ce monde, c'était le mal. Et ils voulaient retourner à la nature. Donc ils disaient, il faut se retourner à l'âge de pierre et aller vivre avec des peaux de bêtes dans le bois de Boulogne, n'est-ce pas ? Bon, avec. Et ils ont fait quelques expériences comme ça, mais c'est assez intéressant. Ils avaient des journaux quand même, et donc on les a redécouverts. On a fait un petit livre sur eux, les Naturiens. C'est d'autant plus intéressant que ce courant existe toujours, en fait, aux États-Unis. Vous avez tout un courant qu'on appelle les primitivistes, qui se revendiquent d'un très grand anthropologue américain, Marshall Salins, qui avait écrit un livre qui est un très très beau livre, qui s'appelle, qu'on a traduit en français sous le titre Âge de pierre, âge d'abondance. Et lui nous montre que la seule société qu'on peut vraiment appeler une société d'abondance, c'est les sociétés de chasseurs-cueilleurs du paléolithique, parce que ces gens-là avaient une activité très limitée. On ne peut pas dire qu'ils travaillaient. Ils faisaient de la chasse, ils faisaient de la pêche, ils faisaient de la cueillette. Mais 2-3 heures par jour, ça suffisait pour satisfaire le besoin. Donc ils avaient des besoins très limités. Comme ça, ils étaient satisfaits surabondamment. Et ils pouvaient consacrer tout le reste du temps à la vie sociale, à la fête, aux rêves, à la vie de famille, à la danse. Il passait beaucoup de temps à se décorer et à faire fabriquer des décorations pour faire le carnaval, enfin tout ça. Donc voilà, c'était une vie apparemment assez satisfaisante avant la révolution néolithique. Donc qui s'appelle les primitivistes. Alors il y a eu des gens qui primitivistes, un certain Zorzan, effectivement. Hein, et donc c'est un courant qui existe toujours. Donc ça c'est un deuxième ensemble de précurseurs. À côté de ça, effectivement, il y a toute une série d'auteurs qui sont pas des théoriciens, qui sont pas non plus des praticiens, etc., qui sont des romanciers, qui sont des poètes, hein, qui sont éventuellement des hommes politiques, des écrivains, et qui ont aussi développé ça, des idées très proches. Hein, on peut penser à Tolstoï, par exemple, surtout le dernier Tolstoï qui a inspiré Gandhi. Hein, et ou bien alors des auteurs comme Bernanos, Georges Bernanos, La France et les robots, sur lequel on va faire bientôt un ouvrage, ou Jean Giono, dans le premier Jean Giono, celui des années 30, qui avait même fait une expérience alternative dans l'arrière-pays des Alpes maritimes. Et donc dans les poètes, poète, écrivain, en Italie, il y avait le grand Pier Paolo Pasolini, les scritti corsari, les écrits corsaires, etc., sont tout à fait en italien. On a fait un petit livre sur Pasolini, précurseur de la décroissance. Et ça, c'est important, tous ces gens-là, sans parler des auteurs de science-fiction. Alors, vous avez les deux grands, évidemment, George Orwell, connu pour 1984, et puis Aldous Huxley, avec Le meilleur des mondes. Alors, sur Orwell, on a déjà fait un petit précurseur. Sur Huxley aussi en italien, mais on va le faire aussi en français. On connaît surtout Le meilleur des mondes, mais il y a tous des écrits écologiques d'Huxley très, très intéressants sur ce plan. Donc, vous voyez, là on a tout. Alors, c'est très intéressant parce que ces gens-là ont une façon, à la différence, évidemment, des théoriciens, une façon littéraire de faire passer le message qui peut toucher beaucoup plus de gens, qui peut être beaucoup plus important pour diffuser les idées, et c'est important de faire des petits bouquins sur eux pour faire comprendre en quoi ces gens-là sont des précurseurs de la décroissance, et pas seulement des auteurs sur lesquels on peut faire une dissertation de baccalauréat, dans un point de vue purement littéraire et universitaire. Alors les politiques, Gandhi, qui est quand même à la fois un grand théoricien, on peut dire que le message fondamental de la décroissance, on le trouve chez Gandhi, lorsque Gandhi nous dit « La Terre est assez grande pour satisfaire les besoins de tous, mais sera toujours trop petite pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » C'est clair, c'est évident que si tout le monde avait l'avidité de nos grands prédateurs comme Carlos Ghosn ou d'autres, ou les Pinots et compagnie, bien, effectivement, la Terre est très. Il faudrait déjà éliminer une grande partie de l'humanité. Et puis, alors, finalement, bien sûr, si la décroissance a été. La synthèse entre la critique écologique et la critique de l'économie productiviste, etc., elle développe une philosophie en attaquant la base du paradigme de la modernité qui est l'illimitation. L'illimitation, c'est-à-dire la démesure, ce qui, pour les Grecs, était l'horreur par excellence, l'hubris. Toute l'éducation, la pédagogie de la démocratie athénienne était à partir du théâtre, qui était une forme de civisme, qui était une sorte de cérémonie civique auquel participait toute la population. Et le but du théâtre classique grec, Sophocle, Euripide, etc., c'était de faire apprendre au peuple le sens de la mesure, parce que le héros, saisi par l'hubris, est puni par les dieux, la démesure amène le héros à se casser la figure. Bon. Et donc, c'est très important de retrouver le sens de la mesure. On s'aperçoit donc que derrière le message philosophique de la décroissance, que une fois critiqué, démoli, une fois sorti de la rationalité économique qui est la logique du capitalisme, la base de notre économie qui a fondé la société moderne, eh bien, on retrouve quoi ? On retrouve la sagesse, le raisonnable, la sagesse. Alors, on trouve la sagesse de notre tradition à travers Épicure, Diogène. Or, Diogène, on peut dire que c'est le décroissant radical. Diogène, il voit un enfant qui boit l'eau à la fontaine dans ses mains. Il dit, ben alors, j'ai pas besoin d'un verre. Et il brise son verre en disant, on n'en a pas besoin. On lui dit, mais Diogène, pourquoi alors tu vas dans les supermarchés ? Alors, il dit, ben, je vais dans les supermarchés à regarder tout ça pour voir tout ce dont je n'ai pas besoin. Comment je suis capable de me passer de tout ce dont je n'ai pas besoin ? Donc, on a fait un petit précurseur, on a fait sur Épicure qui nous dit « Celui qui ne sait pas se satisfaire de peu ne sera jamais satisfait de rien. » Bon, Diogène qui nous donne une leçon là de... Lui, c'est vraiment un primitiviste. Il est vraiment... Il faut revenir au... Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Hein. Et puis, le stoïcisme aussi, tous les auteurs, toute cette sagesse antique, finalement, est basée sur le sens de la mesure. Et là, on retrouve les sagesses de tous les temps et de tous les continents. La sagesse chinoise du taoïsme, donc on a fait un livre sur Lao Tzu et le taoïsme. Et effectivement, c'est intéressant parce que les collègues chinois qui sont conscients, qui vont dans le mur, retrouvent la philosophie. Ils se disent, mais nous avons dans notre tradition des racines qui nous permettent de penser une sortie de cette société productiviste à travers le taoïsme. Ou à travers même le confucéisme, le bouddhisme. Hein. C'est ce que m'ont dit aussi les Japonais. Donc la décroissance au Japon, ça marche assez fort, surtout d'après Fukushima, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a... Bon. Et alors on retrouve finalement, et ça, c'est, ça redevient la mode en Amérique latine, donc le buen vivir, qui dit... quand j'ai rencontré des chefs amérindiens, un colloque dans le Pays Basque qui s'intitulait « Décroissance et buen vivir », « Decrescimiento et buen vivir », les chefs amérindiens d'Équateur, ils m'ont dit « Mais ce que tu appelles décroissance, c'est, nous, c'est ce qu'on appelle buen vivir. C'est exactement, on porte le même message à travers cette idée « sumac causai » en quechua. Hein. » Et donc, on traduit par buen vivir. Mais finalement, aussi, la sagesse africaine, l'umbundu des Bantous, etc., on retrouve cette même sagesse, c'est simplement la sagesse qui nous dit, bon, au fond, notre société, ce qui est à la base de la société de croissance, du productivisme, du consommateur, c'est la démesure. Et toutes les sociétés traditionnelles avaient pour but de discipliner, d'éduquer. Il y a dans l'homme une aspiration à un dépassement, donc à une certaine démesure, il faut canaliser cette démesure, n'est-ce pas, pour le bien commun, à travers le sport, à travers différentes choses, et limiter, éviter que cette démesure se traduise par une soif de richesse illimitée, une soif de pouvoir illimité, qui détruit la société, qui détruit le lien social, et qui détruit finalement la planète à travers l'exploitation et la prédation de la nature. Donc, voilà. Alors, vous allez me arriver à ce point. C'est... oui, je conclue. Hein. Mais, donc, c'est une petite anecdote lyonnaise. Donc, pas très loin d'ici, vous avez un stand de la revue Silence. La revue Silence est un peu à l'origine de la décroissance, puisque c'est eux qui ont publié les premiers textes sur la décroissance à la demande de l'association Casseurs de Pub. Il m'avait contacté et demandé une contribution, et c'est là que c'est la première fois que j'ai utilisé le mot décroissance. J'ai fait un article, Abat le développement durable, vive la décroissance conviviale. Et paf, c'est parti comme ça, comme une fusée. Bon. Et quand on a fait cette collection, on a publié les premiers livres, les amis de Silence ont dit, dans le truc, bon, c'est très bien cette collection, c'est très très bien, c'est très bien, mais c'est vraiment, il n'y a que des mecs là-dedans. Alors, et les femmes. Effectivement, alors là, on était devant un problème, un paradoxe, c'est un nouveau paradoxe, parce qu'au fond, tout ce qu'on a pu apprendre à travers les auteurs, etc., c'est qu'au fond, le système capitaliste productiviste était un système machiste, patriarcal, comme on dit, etc., et que l'alternative, forcément, devait retrouver des valeurs féminines, une certaine féminité. Donc, j'ai dit, la décroissance sera féminine, voire féministe, ou ne sera pas. Oui, mais des auteurs, il faudrait quand même que ce soit quand même des femmes qui parlent de ça, plutôt, qui parlent de femmes et qu'on trouve des... Et là, on était un peu... C'était difficile de trouver des auteurs, parce qu'il y a bien des femmes célèbres, pas beaucoup, mais il y en a quand même, comme George Sand, etc. Mais bon, c'est difficile de les mettre dans la décroissance. Même Simone de Beauvoir, bon, est-elle décroissante? Bon, la critique écologique dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, elle est limitée. Bon, alors... et puis alors, on s'est aperçu, en cherchant bien, qu'il y avait des femmes. Il n'y en a pas beaucoup, parce que le système, pendant des siècles, ne le permettait pas. Et quand il le permettait, c'était très limité. Et quand ça arrivait, etc., on les oubliait très vite. Donc, ça, c'était pas facile. Mais il y en avait, et en particulier, il y a un très beau cas, parce que une auteure qui a eu son heure de gloire, et qui a été totalement oubliée, et qui avait développé véritablement les idées totalement de la décroissance, c'est Françoise Daubonne. Françoise Daubonne a écrit plus de 50 livres, plus de 100 même, je crois, mais beaucoup de romans, etc. Mais elle a écrit 2-3 livres, en particulier Écologie et féminisme, hein, qui sont une véritable théorie de la décroissance, et en plus Écologie et féminisme, que j'ai fait republier chez un autre éditeur, Libre et Solidaire, mais nous allons publier un petit précurseur avec... Bon, nous avons déjà publié Simone Veil, hein, qui est... Bon, et puis, il y en a quelques autres. On en va publier quand même quelques... Mais ça a été un problème. Et heureusement, on a réussi quand même. En Italie, on a trouvé aussi quelques auteurs comme Laura Conti, etc. Et puis, finalement, il y a aussi des auteurs, il ne faut pas les oublier, même si on ne peut pas faire des petits livres dessus, ce que j'ai appelé les infréquentables, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas bien, enfin, qui se sont engagés. Alors, prendrai l'exemple d'un romancier qui est remarquable, qui a écrit un roman, une utopie décroissante, formidable. D'ailleurs, il a pris comme modèle pour son héros Lanza del Vasto. Hein. Bon, alors, cet auteur, c'est Barjavel, René Barjavel, hein, dont le livre « Ravage » est un livre formidable, mais totalement décroissant. Le problème, c'est que « Ravage » a été publié en feuilleton en 1941, dans « Je suis partout », le journal antisémite, etc. Donc, il a été très compromis dans la collaboration. Et effectivement, on n'a pas... Alors, en plus que, déjà, nos adversaires nous guettent pour pouvoir essayer de nous traiter de rouge-brun, hein, etc. Alors, si on publiait... Alors, je ne parle pas d'Heidegger, parce qu'on pourrait faire un livre de décroissance sur Heidegger, etc. Donc, il y a comme ça un certain nombre d'auteurs. Mais dans le livre que vous trouverez en vente à la sortie, je pense, là, une anthologie des précurseurs dans lequel il y a 70 précurseurs. Voilà, il le montre là-bas dans le fond, là-bas. Monsieur. 70 précurseurs répertoriés, hein, sur lesquels on ne fera pas tous des bouquins. Il y a aussi un chapitre sur les infréquentables, parce qu'ils ont quand même le droit à une certaine reconnaissance. Voilà. Alors, donc, pour conclure, je m'arrête là.
Il y aura des questions, quand même. Hein? Des questions de la salle.
Oui, il y a des questions. Je m'arrête là pour le... Donc, c'est un champ ouvert. Alors, il y a des tas de gens, on me dit, parce que, par exemple, quand on dit, bon, dans les femmes, mais pourquoi Vandana Shiva, par exemple, c'est un nom qui, assez souvent, me revient. Alors, je dis toujours, on a pris la décision de ne pas faire de livres sur les gens vivants. Pour deux raisons. D'abord parce que tant que les gens ne sont pas morts, on ne sait pas comment ils finiront. Ils peuvent finir mal. Donc, hein, imaginez que je finisse comme ministre de Macron. Hein. Bon, alors, donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Et la deuxième raison, c'est que si on fait un livre sur un auteur vivant, il y a 50 auteurs vivants qui vont dire « et moi, et moi, et moi hein, ». Alors, on va se faire beaucoup d'ennemis. Donc, il est sage d'attendre que les gens soient morts. Donc, c'est pour ça. effectivement, ça nous aurait permis de résoudre le problème de la rareté des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes vivantes qui sont dans la décroissance. Donc, qu'elles se dépêchent de mourir et on fera un petit livre sur elles. Merci.
On va prendre la première question.
Oui, cher professeur. Là, vous nous avez fait surtout une critique culturelle hein, du capitalisme productiviste, consumériste, industrialiste, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas bon que nous échangions avec vous, de la salle, sur la question de la fin de la vie à l'échelon de ce siècle, hein, puisque le pronostic qui est engagé, c'est la mort létale sur le plan écologique et sur le plan anthropologique, ben, c'est la mort de milliards de personnes. À moins que les riches laissent passer aux deux pôles verts à la fin de ce siècle quelques milliards de personnes, ça m'étonnerait. On est donc dans un système où la classe dominante abandonne le peuple, on le voit bien, elle ne paye plus d'impôts, elle se barre. Elle est en train de se faire des îles fortunées où elle pourra attendre la fin du monde.
Elle n'avait jamais vraiment épousé le peuple, hein, je vous signale.
Oui. Alors, voilà, je vais faire un peu plus court. Donc, on est vraiment sur la trajectoire 55 degrés à Lyon entre juin et septembre, d'après des prévisions, 6 mètres d'eau, etc. On est sur la disparition accélérée de la biodiversité, ragnagna, tout ça. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas le capitalisme sur le plan économique? Je vous avais déjà posé la question à Paris. Sur le plan économique et politique, quand est-ce qu'on sort de cette propriété actionnariale ou capitaliste des moyens de la production bancaire, industrielle, commerciale, immobilière, foncière, ragnagna, pour essayer en même temps de se sauver ou de sauver les meubles, c'est-à-dire d'assurer à la population le minimum de services vitaux, à manger, à boire, à chauffer, et aussi d'assurer peut-être de sortir du système qui continue pas de, hein, de trimballer 15 000 porte-containers géants qui polluent plus chacun que 50 millions de bagnoles avec cette mondialisation malheureuse.
On est parfaitement d'accord et c'est entièrement dans le projet de la décroissance. C'est tout à fait. Donc, quand j'ai dit c'est un éco-socialisme, il y a là, cette dimension socialiste avec toute la critique socialiste et tout ça, et tout ce que vous avez dit, et la dimension écologique, dont le porte-container fait partie. On est entièrement d'accord. Hein. Pas de problème. Oui, non, mais on est. Oui, mais bon, il y a cas. Alors voilà. Donc, ce que nous disons, nous, c'est que. On sème des graines pour essayer de décoloniser l'imaginaire et de changer pour qu'on puisse quitter le logiciel. Parce que malgré tout, si ce système existe, c'est quand même nous qui le faisons fonctionner, même si on est manipulé, mais en même temps, on reproduit la manipulation. Donc il faut une véritable rupture, et cette rupture, elle ne peut pas... voilà, c'est à nous de prendre en main notre futur.
Bonsoir. On entend parler de la décroissance depuis fort longtemps, ce qui vous concerne, mais ça reste très intellectuel. Sinon, c'est individuel. Des gens qui n'ont pas de téléphone portable ou de téléviseur, mais on ne voit pas du tout sur le plan social et économique, comme le disait l'autre personne, qu'est-ce que ça donnerait.
On est trop... Le début, c'était on est trop intellectuel, c'est ça, c'est trop... et pas assez près du... D'accord. Oui, donc le fait que ce soit trop... Enfin, que la décroissance est intellectuelle, mais trop individuelle. Et donc, et pas assez sociale. Enfin, c'était ce qui est ressorti de... Je ne sais pas si vous voulez...
Bonjour. C'est juste... j'entends beaucoup la critique... Enfin, des gens qui critiquent de ne pas être dans cette critique de... la décroissance austéritaire, mais alors ils en parlent comme si c'était très clair ce que c'était, sauf qu'ils n'expliquent pas ce que c'est. Et du coup, je me demande pourquoi ils veulent tellement pas l'être qu'ils sont incapables de dire c'est quoi. La décroissance austéritaire. Si vous avez une définition.
La décroissance austéritaire. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
J'en ai entendu parler, et, enfin, ça revient souvent sur des critiques et je ne sais pas ce que c'est.
Oui, il marche très bien. Non, mais c'est juste, je vais voir si j'ai bien compris. Quelque part, une des critiques que font les gens en disant « Ah, la décroissance, c'est l'austérité. »
Donc, ah, austérité.
Voilà.
Alors, il faut s'entendre. Hein. Bien évidemment, nous sommes manipulés. La publicité, qui est le deuxième budget après l'armement, sert à ça. Hein, la communication, etc. Et c'est très intéressant de... Je prendrai un petit exemple, très limité, mais pour faire comprendre. Vous savez que j'ai écrit un livre sur l'obsolescence programmée. Hein, l'obsolescence programmée, c'est le fait que les industriels introduisent un élément de faiblesse, hein, volontairement dans le produit, de manière à obliger les gens à racheter. Après, la machine à laver, elle est en panne. Elle est très belle, toujours, mais elle ne marche plus. On va chez le marchand et il dit, bah non, la cuvette est cassée, on ne peut plus la changer parce que maintenant c'est électronique, il faut la mettre à la poubelle et en racheter une autre. C'est comme ça qu'au lieu d'avoir une bonne machine à laver pour toute sa vie, on en change tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Bon, tiens. Donc ça, c'est l'obsolescence programmée. Bon, alors, c'est la civilisation du jetable. Hein. Donc on achète, ça tombe en panne, on jette, etc. Et donc, c'est pas l'abondance, c'est le gâchis. Parce qu'on n'a toujours qu'une machine à laver à la fois. On en use 10 dans sa vie, mais on n'en a toujours eu qu'une. Évidemment, d'ailleurs, on n'en a pas besoin d'avoir 3 machines à laver en même temps, ni 5 voitures. Bon, et on est obligé de changer comme c'est accéléré. Et ça, c'est pas vraiment l'abondance. Hein. Alors, ça, c'est né aux États-Unis dans les années 30. Hein, d'abord avec General Motors, la Chevrolet, etc., puis des différentes choses. Ça avait déjà commencé avec King, Camp, Gillette et le rasoir jetable, hein, sans parler des cols en papier jetables, ben, déjà depuis avant. Mais ça n'a pas été facile de convaincre le consommateur d'acheter, de renouveler et de vendre. Pourquoi ? Parce que la culture traditionnelle américaine formaté par les Pilgrim Fathers, etc., était une culture d'austérité. On gardait, hein, dont l'un des témoignages, c'est effectivement les patchwork, on recyclait les vêtements et on en faisait des couvertures, etc. Donc, les Américains sont restés allergiques. Encore un très grand capitaliste, hein, Henry Ford, quand il a fait sa Ford T, qui a, pendant des dizaines d'années, il a fait une voiture très solide, robuste, que le farmer du Middle West utilisait pour transporter ses patates. Quand la Ford T tombait en panne, on donnait un coup de pied et ça repartait. Donc c'était formidable. Mais les gens, du coup, hein, ce n'était pas la société de consommation, c'était une société. Bon, il fallait une certaine... Et il a fallu changer tout ça. Alors Chevrolet s'en est chargé en faisant des nouveaux modèles. C'était pas meilleur techniquement. Mais il faisait des Jean Joliveur, des modèles, et il a convaincu aux gens de renouveler, de changer de voiture tous les 2-3 ans. Etc. Et puis, au bout de 20-30 ans de propagande comme ça, eh bien, et puis de l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, on a amené les gens à renouveler, donc à la culture du jetable. Et donc, il nous faudrait... Et ça, c'est la décolonisation de l'imaginaire, retrouver un imaginaire différent en disant nous voulons des produits, nous n'avons pas besoin de quantité de choses dont nous n'avons pas besoin, hein. Donc une sobriété, mais cette sobriété nous permettrait, comme sans être à le niveau de la sobriété du chasseur-cueilleur du paléolithique, mais cette sobriété nous permettrait d'avoir beaucoup plus de loisirs. D'avoir beaucoup moins de destruction de la planète, d'avoir beaucoup moins de prédation. Hein, faut quand même penser qu'il y a 800 bateaux qui partent chaque mois des États-Unis, bourrés de matériel électronique, hein, qui contiennent des métaux rares qu'on importe de Chine, pour lesquels on se massacre dans l'est du Congo, comme le coltan, etc. et qui, au lieu de rendre service, vont polluer les pays comme le Ghana, la Nigeria, où c'est déchargé sauvagement. C'est un désastre environnemental total. Donc, vous voyez, c'est un changement complet, global, à la fois du système, hein, mais sortir du système implique qu'on sorte de l'imaginaire qui soutient le système, et sortir de cet imaginaire implique qu'on sorte du système. Vous avez un cercle qu'il faut briser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'introduire des boulons dans l'engrenage pour casser la machine. C'est ce que j'essaye de faire.
Oui, et la sobriété n'est pas l'austérité. Je viendrai par là-bas.
C'est un bon intéressant parce que, évidemment, les mots, c'est très important, les mots. Hein. Une conférence, c'est des mots. Bon. Et les mots, ils peuvent changer de sens selon leur usage. Et très intéressant, que dans les années 70, il s'est trouvé un secrétaire du Parti communiste italien, Enrico Berlinguer, hein, qui a fait une véritable propagande pour la décroissance. Et donc, on a fait un petit précurseur sur Enrico Berlinguer. C'est pas évident pour un communiste. Il a fait des discours sur l'austérité révolutionnaire. Donc, il disait, il y a l'austérité bourgeoise, etc., mais il y a l'austérité révolutionnaire. Bon, aujourd'hui, après les plans d'austérité, etc., on ne peut plus utiliser le mot austérité. Donc, on utilise le mot sobriété, hein, ou le mot... des mots comme ça. Mais, effectivement, il s'agit donc de limiter ses besoins, hein, mais ce n'est pas du tout une forme... Pas de façon masochiste. Les satisfaire, mais pour les satisfaire sans abuser du truc, il faut aussi que le système nous permette de le faire. Donc, vous voyez, il y a un aspect d'éthique individuelle, mais aussi un aspect de changement des logiques qui formatent cette éthique et qui permettent à elle de se développer.
On prend une autre question ?
On prend une autre question.
Alors, juste une petite observation. Quand tu parlais, quand vous parliez, M. Latouche, de thermocapitalisme et de la décroissance comme alternative au thermocapitalisme, il y a défini par l'exploitation des ressources fossiles comme le charbon et le pétrole. Je pense que ce serait intéressant d'ajouter l'uranium dans la liste des ressources fossiles qui ne sont pas une bonne réponse à la disparition des deux autres. Bon, ma question, elle porte sur l'absence de deux domaines dans les réflexions que vous nous avez proposées. C'est le premier domaine, c'est la perspective démographique, c'est-à-dire que la Terre sera toujours assez grande pour satisfaire les besoins de tous. Dans certaines dimensions démographiques, il y a un moment où cette limite va être atteinte. Et la deuxième dimension, c'est l'organisation du pouvoir, c'est-à-dire que dans la problématique de changement de paradigme, de changement d'organisation, eh bien, il faut se poser ces questions de pouvoir, et je pense que c'est intéressant de creuser ce domaine-là aussi.
Alors, vous avez doublement raison. Alors, effectivement, on n'a pas eu à parler ici de démographie, puisque on parlait des précurseurs. On aurait pu, parce que nous avons pensé faire un petit précurseur sur Malthus. Mais justement, il y a une difficulté, il y a eu un problème. Celui qui l'avait fait était malthusien et on voulait quand même que ça soit plus critique. Donc on l'a pas encore sorti de petit. Mais bien évidemment, notre mantra, c'est que une croissance illimitée est incompatible avec une planète finie. Alors, c'est une croissance illimitée, c'est valable aussi pour la croissance de la population. Bien évidemment, contrairement à ce que disait mon collègue Alfred Sauvy, qui disait « la Terre peut nourrir 50 milliards d'habitants », je ne le crois pas. Hein, donc, je crois qu'on est arrivé aux limites, ou pas loin des limites, de la capacité de charge démographique. Et donc, quand Gandhi disait que le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, il pensait de ceux qui existent à l'heure actuelle, pas de tout ce qui existerait dans le futur. Même Gandhi savait qu'on ne pouvait pas nourrir une population illimitée. Il aurait probablement été effrayé de penser que l'Inde, maintenant, a plus d'un milliard d'habitants. Elle en avait que 500 millions au moment où il est mort. Donc, imaginez un peu le problème. Alors, c'est un problème, mais le principal, nous aussi, La première décroissance, c'est l'illimitation productiviste, hein, parce que, bien évidemment, les Chinois sont sans doute trop nombreux, mais le problème premier, c'est pas que les Chinois soient trop nombreux, c'est que les Américains produisent et consomment trop, parce que les Américains consomment et produisent un peu plus que les Chinois, et les Chinois sont quand même beaucoup plus nombreux. Donc il faut les deux, il faut réduire les deux. Mais d'abord, comme disait Murray Bookchin, à son propos, il disait, même si on réduisait la population jusqu'à 50 millions d'habitants, si ces 50 millions ont des désirs illimités, hein, si le mode de vie américain n'est pas négociable, comme disait le père Bush, hein, eh ben, la planète sera toujours trop petite pour satisfaire les demandes. Donc, il faut d'abord s'attaquer à l'illimitation productive, hein, du système productif, mais aussi penser à réguler la démographie. C'est ça, est clair. Bien évidemment, le problème politique est immense, hein, et une partie des réflexions est un champ de réflexion extrêmement important. C'était le cœur de la réflexion de mon ami Castoriadis, le politique. Hein. Et donc, je m'inscris dans cette perspective d'un horizon de sens de démocratie radicale. Je dis horizon de sens parce que je crois qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est une idée directrice vers laquelle on doit s'orienter. Et il y a un très beau livre récent de mon ami Jérôme Bachet. Et Jérôme Bachet, comme vous savez, est un historien médiéviste qui passe sa vie dans le Chiapas avec les néo-sapatistes. C'est un peu étonnant de passer des hérésies du XIIe siècle au néo-sapatisme du Chiapas avec le sous-commandant Marcos, mais il fait très bien le lien. Et effectivement, au Chiapas, il s'efforce de construire cette démocratie à la base avec tous les problèmes que ça pose. Et son dernier livre sur ce point, il y a des réflexions extrêmement intéressantes qui vont tout à fait dans la perspective de ce qu'on cherche à mettre en œuvre à travers la décroissance. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là parce que moi, je commence à avoir la voix qui...
Comme vous le sentez.
Comme la décroissance, c'est aussi retrouver le sens des limites.
Tout à fait.
Il faut aussi se donner des limites pour voilà, les conférences.
Ben, un grand, grand merci, hein, parce que je crois que c'était une chance de vous avoir ce soir.